On parle habituellement de perspective non duelle. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le mot perspective sur lequel je vais insister là tout de suite. Il s'agit d'un changement de perspective, d'abord et avant tout. D'une façon générale, on a tendance à croire que l'on est cet organisme, que l'on est, que l'on vit, que l'on meurt, que l'on fait des choix, que l'on pense, que l'on agit, et que c'est moi qui le fais, tout ça. C'est-à-dire qu'on croit qu'il y a un moi, un pilote, un auteur, qui pense, qui effectue des choix, qui pose des actes. Et on croit que ce qui arrive, arrive à moi, à nous, en tant que moi. Si quelqu'un fait un sale tour, c'est à moi qu'il le fait. Si quelqu'un me dit quelque chose, c'est à moi qu'il le fait, c'est moi qui réagis, et c'est moi qui vais être blessé, c'est moi qui vais me mettre en colère, c'est moi qui vais être triste, etc., etc. En réalité, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Tout se passe comme si on avait des œillères. Et que du coup, notre champ de conscience se rétrécissait. Et qu'on ne voyait plus que moi. Moi dans le monde. Moi avec tout ce qui se passe. Moi et mon histoire. En réalité, je fais ça exprès, ceux qui sont dans le fond. C'est une prise. C'est-à-dire qu'il y a saisi de l'idée d'un moi. Il y a saisi de l'histoire. Il y a appropriation des phénomènes. Et en réalité, lorsque ça arrête d'être crispé comme ça sur les événements et sur l'idée d'un moi, ça se relâche. Et alors il est vu que les événements n'arrivent pas à moi, mais en moi. Que tout se passe, tout arrive au sein de ce que je suis. Et non pas à moi. Et qu'en réalité, il n'y a pas de moi tel qu'on conçoit habituellement, en tant qu'un individu séparé qui pense par lui-même, qui pose des choix par lui-même, qui effectue des choix par lui-même et qui pose des actes par lui-même. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu, et on n'aura jamais. Ce qui signifie qu'aucun moi n'a jamais rien fait, puisqu'il n'y en a pas. Alors j'insiste, j'appelle spécifiquement moi, l'idée, ce que Ramana Maharshi appelait la pensée-je, l'idée que je pense, l'idée que je effectue des choix, l'idée que je pose des actes. En réalité, les actes se posent d'eux-mêmes, les choix se font d'eux-mêmes et les pensées arrivent toutes seules. Et si vous regardez, par exemple, venez de vous raquer la gorge, est-ce que vous avez choisi de le faire ou est-ce que ça s'est fait tout seul? Vous êtes clié des yeux, est-ce que ça se fait tout seul ou est-ce que vous l'avez choisi de le faire, etc., etc. Et si vous regardez comme ça de près, vous vous rendez compte, ah ben non, c'est pas moi, ça se fait tout seul. Et l'idée d'un moi est une idée, une pensée qui est rajoutée, qui est crue, parce que depuis qu'on est petit, on nous apprend qu'il y a un moi. Regarde ce que t'as fait. Et les enfants connaissent bien qu'il n'y a pas de moi, ça vient qu'il n'y a pas de moi. Ils disent, ben, je ne l'ai pas fait exprès, ou bien ils disent, c'est pas moi. Hein, c'est mignon comme tout. Et on insiste, mais tu ne dois pas le faire, fais attention à ce que tu fais. Comme si on pouvait. Par exemple, il y a plein de choses qui font qu'on croit à l'idée d'un moi. Et de même, quand on est petit, on croit à l'idée du Père Noël. Et on croit vraiment que c'est Père Noël qui va mettre les paquets sous le sapin. En fait, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Mais un jour, on nous dit, il n'y a pas de Père Noël, c'est les parents. Mais on ne nous a encore jamais dit, il n'y a pas de moi. C'est la différence. C'est que c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire qu'on croit à quelque chose de faux parce qu'on nous a appris quelque chose de faux. Et mais sauf que personne nous a dit c'est faux. Et en fait, cette perspective non duelle, c'est justement aller vers bon, c'est que des mots tout ça, hein. Aller vers la vision, la réalisation qu'il n'y a pas de moi, qu'il n'y en a jamais eu. Qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, il n'y a pas de pilote dans cet organisme. L'organisme fonctionne de lui-même. Et pas seulement le cœur, les intestins et tout, les pensées arrivent, les choix se posent, les actes se posent, etc. Tout arrive de soi-même. L'autre hack axe de regard, parce qu'il s'agit, tout le temps d'un regard en fait. Bon, moi je parle beaucoup de regard, on peut parler d'écoute, on peut parler d'être avec, on peut parler de rencontrer directement, on peut parler de insight, de prise de conscience, peu importe les mots. Le mot qui vient souvent ici, c'est regard, mais si cela ne vous convient pas, changez-le. Il s'agit toujours de regard. Il ne s'agit pas de croire sur parole ce qui vous est dit ici, mais simplement de laisser la porte ouverte à la possibilité que ce soit vrai. Simplement ça. Et à partir de là, explorer, regarder. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les pensées, elles arrivent? Ou est-ce que c'est moi qui les pense? Est-ce que c'est moi qui choisis de me gratter? Ou est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est moi qui fais mm-hmm? Ou est-ce que ça se fait? Etc, etc. Ça, c'est un premier regard. Et puis, il y en aura d'autres, etc. Et ça, c'est donc un axe d'approche, on dit ça, de cette perspective. Qu'est-ce qui est vrai? En fait, on s'occupe de ça. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui, en réalité, au bout du compte, en amont de toutes les idées, tous les concepts que l'on a? Et une autre approche de la même chose, c'est mais qu'est-ce que je suis, en réalité? Est-ce que je suis cet organisme? On dit bien, j'ai un corps. Si j'ai un corps, je ne suis pas le corps. J'ai des émotions, j'ai des sensations, j'ai des perceptions, j'ai des pensées. Donc, ce n'est pas ce que je suis, puisque je l'ai. Alors, qu'est-ce que je suis? Et ça, c'est une question avec laquelle on peut rester. Alors, on peut se tourner dans la tête avec cette question, ce n'est pas la peine, ça ne mène nulle part, on ne sait pas. En fait, la réponse, c'est je ne sais pas. Et puis, il y a un abord direct, toujours de cette même approche, ce côté-là, que suis-je? C'est essayer d'arrêter d'être un instant. Là, tout de suite, essayer d'arrêter d'être. Est-ce que vous y arrivez?
Non.
Non, j'y arrive pas. C'est-à-dire que tout de suite, on sait, mais non, je ne peux pas ne pas être. Et qu'est-ce que c'est qui ne peut pas ne pas être? Comment c'est? Ce « je ne peux pas ne pas être », on va l'appeler comme ça pour l'instant. Quand j'essaye d'arrêter d'être, je vois « mais non, je ne peux pas arrêter d'être ». Donc tout de suite, il y a une sensation, il y a quelque chose qui est là. Une connaissance indubitable, je ne peux pas ne pas être. Et qu'est-ce que c'est? Comment c'est ressenti en soi?
Vous avez dit? La conscience.
On peut appeler ça la conscience.
La croyance.
La croyance? En quoi? Non, là je ne parle pas de croyance, je parle vraiment de regard, de rencontre directe. Essayez d'arrêter d'être maintenant tout de suite. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas? Non? Qu'est-ce que c'est qui ne peut pas ne pas être? Regardez.
Le fait de croire que je suis.
En amont de tous les mots, je ne peux pas ne pas être. Il y a quelque chose qui est constaté. Et lorsque je constate je ne peux pas ne pas être, il y a une sensation, il y a une conscience, je ne peux pas ne pas être. Mais j'ai conscience que je ne peux pas ne pas être. Cela qui ne peut pas ne pas être, si vous restez avec ça, vous, je ne sais pas, mais moi c'est comme un vide, comme une tranquillité, un espace, on peut mettre plein de mots, peu importe. Le mental, il s'arrête au moins un moment. Puis il y a cette connaissance indubitable. Ah ben oui, c'est évident, je ne peux pas ne pas être. Et si vous restez un instant avec ce côté, je ne peux pas ne pas être, regardez, est-ce qu'il est tout le temps là ou est-ce qu'il s'en va et s'en vient? Que j'en ai conscience ou non, est-ce que ça s'arrête ou est-ce que ça ne s'arrête pas? Est-ce qu'il varie en fonction de mon humeur? Si je suis triste, enthousiaste, en colère, apeuré? Ou est-ce qu'il est toujours le même? Ou est-ce que c'est ce côté indubitable, certain, je ne peux pas ne pas être, cette tranquillité qu'elle a avec, est tout le temps la même? Est-ce qu'elle a un âge? Est-ce que c'était la même hier et aujourd'hui? La même il y a 10 ans et aujourd'hui? Ou pas? Le même, je ne sais pas comment je dis là, mais je pourrais dire le. Est-ce que ça s'étiquette, moi? pas. Alors, ceux qui n'arrivent pas par ce moyen-là, regarde, par exemple, un jour vous avez déjà été scotché par la beauté d'un paysage, ou vous promenez un forêt, puis le mental s'arrête, ou vous faites du jardin, ou n'importe quoi. Vous jouez de la musique, si vous êtes artiste, par exemple. À un moment donné, ça s'arrête, le mental s'arrête. À un moment donné, il y a ce vide plein, cette espèce de tranquillité. Bon, moi je mets les mots là dessus, mais vous en mettriez peut-être d'autres, bon, peu importe. Cette tranquillité-là, ce bien-être-là. Ça crée un bien-être dans le corps, dans l'organisme corps-mental. Alors, ceux qui ont contacté ça maintenant, est-ce que ça a un âge? Est-ce que ça a un sexe? Est-ce que ça varie selon que je vais bien ou mal? Selon que l'organisme va bien ou mal? Qu'il est malade ou en bonne santé? Je ne sais pas. Non. Les autres?
C'est
non.
Constant.
Pardon?
C'est constant.
C'est constant. C'est tout le temps là, en fond. C'est tout le temps là, en fond. Qu'on en ait conscience ou non. Et cette perspective non duelle, c'est ça. D'un côté, regarder, mais ce que j'appelle moi, qu'est-ce que c'est? Il est où ce moi, si je crois qu'il y en a un? Et les pensées, est-ce que c'est moi qui les pense? Est-ce que les choix, est-ce que c'est moi qui les effectue? Est-ce que les actes, c'est moi qui les pose? Ou est-ce que tout arrive de soi-même? Et de l'autre côté, c'est mais qu'est-ce que c'est cela qui ne peut pas ne pas être? En fait, c'est la même chose. Hein. Au bout du compte, on arrive au même endroit. Parce qu'on appelle le « je suis » dans bien des traditions, quand on met des majuscules. Et ce « je suis » qui s'exprime dans l'organisme en tant que joie, paix, amour, unité, accueil, sérénité, tranquillité, peu importe, sans contraire et sans objet. Et sans objet, c'est-à-dire que ça aime, c'est l'amour. Qu'il n'y ait rien à aimer ou qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose à aimer, c'est pareil, l'amour est l'amour. Et l'amour ne peut pas ne pas aimer. Et pareil, je dis amour, je dis joie, je dis paix, je dis tranquillité, sans objet et sans contraire. On sort du domaine de l'existentiel et on touche au domaine de l'étreté, de l'étance, de l'essentiel. Et en réalité, comme cet étang, cet étroité, ce je suis est tout le temps là, que j'en ai conscience ou non, c'est que les phénomènes existentiels viennent s'inscrire sur fond d'étreté. C'est-à-dire que lorsque tout est déposé, ça c'est un autre moyen, déposer un instant tout, absolument tout, les pensées, les images, les sensations, les perceptions, votre histoire de vous-même, votre mémoire. Déposez tout un instant, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien, mais il y a quelque chose qui le constate. Cela qui dit « il n'y a plus rien » n'est pas rien. Il n'y a plus rien dans le domaine du mental, de la conscience existentielle. Mais cela qui dit « il n'y a plus rien » est conscient. Et c'est pas rien. Et si on tourne le regard vers cela qui dit « mais il n'y a plus rien », alors tout peut être déposé et c'est pas vide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement de ça dont on parle. C'est rejoindre cet espace. Pour mettre des mots dessus, mais les mots sont toujours en trop ou en pas assez, ils ne pourront jamais décrire la chose correctement. Rejoindre cet espace d'être-té, où peu importe quelque chose ou rien. Parce que finalement, si les choses ne sont pas déposées, elles apparaissent à cet être-té, qui les connaît, qui les constate. Et lorsqu'elles sont déposées, alors l'être-té se connaît elle-même. Elle peut se regarder elle-même, elle se connaît elle-même. C'est un premier pas. C'est un... premier stade. Alors là, on peut toucher un instant ce dont je parle, à cette étreinte. Et en fait, c'est des mots que j'aime pas beaucoup, mais enfin, la perspective mondiale parle d'éveil, de réalisation. La première réalisation, c'est réaliser justement qu'il n'y a pas d'individu séparé. Réaliser qu'il n'y a pas de moi, qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Qu'il n'y a pas d'individu séparé qui pense par lui-même, qui effectue des choix par lui-même, qui pose des actes par lui-même. C'est réaliser je suis. C'est-à-dire que, au lieu de croire que l'on est un être humain dans le monde, on réalise que l'on est cet être-té. Qui se vit en tant qu'être humain dans le monde. Tout continue comme avant, entre guillemets. Je continue à prendre ma voiture pour venir ici. La regarder sur Google Maps avant. Ça fonctionne comme avant. Mais il n'y a plus d'identification. Quasiment plus d'identification à cet organisme. Corps mental. Ni aux pensées, ni au corps physique. Bon, moi j'ai assez parlé. À vous. Si vous avez des questions, allons-y.
Quand on parle quand même des actes qu'on pose nous-mêmes, quand on parle de libre arbitre.
On en parle. Mais pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut qu'il y ait un moi. Et moi je dis, il n'y a pas de moi.
De venir ici, de faire cette réunion, par exemple. Il y a fallu le moment que vous décidiez ça quelque part.
Est-ce que je l'ai décidé ou est-ce que ça s'est décidé? Pour moi, c'est évident, ça s'est décidé sans moi. On continuera à dire moi, je, me, bien, etc., parce que c'est une facilité langagière. Mais sauf qu'ici, quand je dis je, me, moi, bien, il n'y a pas l'idée d'un moi à qui ça peut appartenir. Qui peut faire quelque chose de lui-même. Vous avez l'idée, par exemple, vous êtes venu ici ce soir. Vous avez choisi de venir?
Oui.
Pour revenir. Qu'est-ce qui vous a fait choisir de venir?
Le thème de la réunion, savoir si j'avais le temps de venir, plusieurs aspects que...
Donc, le temps, est-ce que j'ai le temps de venir?
Oui, par exemple.
C'est indépendant de vous-même.
Non, après, je fais un choix entre... J'ai plusieurs possibilités pour ce soir.
D'accord.
Donc, à un moment,
qui vous a fait choisir ça plutôt qu'autre chose?
L'intérêt de cette...
Mais cet intérêt, d'où vient-il? Avez-vous choisi d'être intéressé par le thème?
C'est quelque chose que j'ai fait en ce moment. Donc,
pardon?
Tout ce dont on parle là, c'est quelque chose qui me passionne en ce moment.
Et est-ce que vous avez choisi, ça vous passionne ou est-ce que c'est arrivé? On sait bien que la passion, ça arrive tout seul. Hein, jusqu'à là, on sait d'habitude.
La nécessité
de quoi?
De rechercher dans ce domaine-là.
Ben c'est pareil, c'est une nécessité, vous l'avez choisi.
Oui, d'accord.
Donc j'ai apparemment choisi, mais en fonction de critères sur lesquels je n'ai aucun choix. Il y a un apparent choix. Mais vous ne soyez pas passionné par ça, vous ne soyez pas venu. Et passionné par ça, vous n'y pouvez rien.
Normalement qu'il y ait deux réunions sur la même thème, d'une
sorte. Mais même, vous auriez lu plus attentivement le petit papier décrivant les deux, vous auriez regardé la tête de chacun des deux, vous avez peut-être écouté sur Internet l'un et l'autre pour voir lequel de vous. Et finalement, vous auriez choisi en fonction de quoi? De l'attirance. Celui des deux qui vous aurait attiré le plus, là maintenant, tout de suite, en fonction de ce que vous auriez écouté ou lu. Attirance sur laquelle vous n'avez aucun choix. Oui, je ne te demande pas de me croire sur parole. Je dis, regarde. Ne croyez rien sur parole de tout ça. Allez voir.
Alors, juste une petite variante. Quelqu'un qui ferait quelque chose de très mal, finalement, on pourrait l'excuser, alors aussi sur le fait qu'il est pourri.
Attention. l'excuser, ça veut dire quoi? Évidemment, il n'a pas de choix. Évidemment, il n'a pas de choix. Mais regardez même pour vous-même, enfin voyons. Les fois dans votre vie, moi ça m'est déjà arrivé, j'espère que vous aussi une fois ou l'autre, les fois dans votre vie, vous avez fait quelque chose de pas très propre. Pas très en accord même avec ce que vous êtes, que vous savez où vous êtes au fond et tout, parce que vous étiez blessé ou parce que vous avez vraiment joué un sale tour, parce que je ne sais pas quoi. Pourquoi vous l'avez fait? Est-ce que vous pouviez ne pas le faire? Et qu'est-ce qui a fait que vous l'avez fait? Alors même que ça va à l'encontre de vos principes, de votre connaissance intérieure, du bon, du bien, de l'amour, de je ne sais pas quoi. Vous étiez trop blessé, vous étiez trop en colère, c'était trop, tout simplement. D'ailleurs, on dit bien, c'est plus fort que moi. C'était trop. Il y avait trop de souffrance, il y avait trop de mal-être ou trop de peur. Alors, on n'a pas pu s'en empêcher. Il n'y avait pas de choix. Oui ou non?
Non, je suis d'accord avec l'idée au fait que beaucoup de choix ne peuvent pas être faits parce que justement, il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont en programme des fois. En cours, en effet, on peut dire j'ai pas eu le choix, j'ai fait ça.
Gouverné par la peur sur laquelle j'ai pas de choix. Parce que si je pouvais ne pas avoir peur, oui. C'est pareil, on court après le bonheur. On n'a pas le choix. Tant qu'on croit qu'on n'est pas le bonheur, on ne peut pas ne pas le rechercher. Pourquoi on appelle ça l'unité, le bonheur, la paix, la joie, peu importe comment on l'appelle. Tant qu'on n'a pas réalisé qu'on est ce bonheur, cette paix, cette unité, cet amour, cette joie que l'on cherche, et donc on n'a pas besoin de le développer. On va courir après, sans aucun choix possible, parce qu'on est pris au trip par ce besoin. Alors pour revenir au thème d'avant, parce que je m'en aperçois, je n'ai pas fini, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on fait, nous, des actes, pas répréhensibles, enfin pas très droits, on voit bien, c'est parce que c'était trop fort et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Évidemment que les autres, c'est pareil. Et si vous gardez bien pour vous-même, vous avez toujours fait du mieux que vous avez pu. La manière dont vous avez travaillé, la manière dont vous avez fait vos études, la manière dont vous avez élevé vos enfants, si vous en avez, etc. On a tous toujours fait du mieux qu'on a pu. Compte tenu de nos conditionnements, de nos gènes, de la situation, de ce qu'on vivait au moment où ça s'est passé, etc. Et ce n'est pas un blanc-seing. Un blanc-seing. Ça n'est pas une autorisation de tout faire. Il y a une histoire soufie que j'aime beaucoup. C'est un voleur qui est amené à son juge et qui lui explique « Mais monsieur le juge, vous ne pouvez pas me condamner. Si Dieu m'a fait voleur, je n'y peux rien. » Dans la droite ligne de ce que je viens de dire. « J'ai pas le choix. C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Vous ne pouvez pas me punir pour ce que Dieu a fait de moi. » Ah, c'est imparable. Et je lui dis « Oui, c'est vrai, tu as raison. » Tu as parfaitement raison. Et Dieu a fait de moi un juge. Et en tant que juge, je suis là pour te condamner. Tu auras 50 coups de fouet. C'est pas une autorisation de tout faire. C'est une compréhension. C'est un accueil. Mais c'est pas un blanc-seing, c'est pas une autorisation de tout faire. C'est je comprends très bien, je ressens ce que tu peux ressentir et ce que tu peux et tout, et non.
Et pourquoi vous dites non?
Oh, ça jaillit.
Je veux dire, ça vous appartient pas non plus.
Ah oui, évidemment, ça jaillit. Quand ça dit non, ça dit non. Ça jaillit plus vite que mon ombre, hein.
Non, c'était pour le thème de, j'ai compris là, de responsabilité. Le juge joue son rôle comme l'autre a joué son rôle.
Oui, bon là, il y a une dialectique pour donner l'exemple. Mais... En réalité, ça se passe pas, dans ma vie, ça se passe pas comme ça. Dans ma vie, ça va, ça se fait de soi-même, très rapidement. Ça passe pas par la case mentale. Ça peut réagir fortement et rigoler dans la demi-seconde qui suit. C'est-à-dire, c'est pas, c'est, ça colle pas. C'est jamais méchant. Contre une réaction comme ça, structurante, c'est jamais méchant. C'est jamais insultant, c'est jamais méchant. Mais par contre, ça peut aller directement. Ou pas, parfois c'est éclate de rire. Parfois ça peut éclater de rire. Regarder avec un sourire complice, disant « je t'ai vu ». Ça dépend, mais c'est pas moi qui le fais. Ça se fait. Ça m'appartient pas. Ça, c'est très clair.
J'avoue, c'est pas très clair pour moi.
Oui. Donc, j'ai du chemin à faire. Non, c'est une question de regard. C'est une question de... Vous savez, on est tous comme si, depuis l'enfance, on disait « ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. T'as pas le droit d'ouvrir les yeux. » Forcément, on ne voit pas clair. Et on se rend dedans les uns les autres, et on se fait du mal, et on se heurte contre les affaires, etc. La perspective non duelle, qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit juste, ouvre les yeux. Oh, je suis ébloui ! Oh, je suis ébloui ! Oh, il n'y a rien ! Je suis ébloui, il n'y a rien, je ne vois plus rien. Forcément, quand j'ai toujours vécu dans la pénombre, à travers les plus paupières closes, quand j'ouvre les yeux, je suis ébloui, je ne vois rien. C'est la première chose, je ne vois rien. Et quand on reste un petit peu les yeux ouverts et qu'on s'habitue à cette lumière, entre guillemets, on commence à percevoir la réalité avec les yeux ouverts. Il n'y a pas grand-chose à faire pour ouvrir les yeux. Tout ce que fait la perspective non-duelle, c'est dire « ouvre les yeux ». Et une fois que les yeux sont ouverts, il n'y a rien à faire pour voir, ça voit de soi-même. Donc non, vous n'êtes pas loin. Vous êtes à une ouverture de paupières près. C'est juste une question de regard. Mais nous sommes, d'une façon générale, pris par nos concepts, par nos idées, de la manière dont tout ça fonctionne, par l'ambiance dans laquelle on vit. Sur Terre, il y a presque 7 milliards de personnes qui pensent qu'il y a un moi qui décide et qui pose des actes, etc. Alors on est pris par tout ça. Et puis on a, selon nos cultures, on a des concepts. Ça fonctionne comme ci et pas comme ça. Et si ça fonctionne comme ça, ça ne va pas aller, on va aller droit dans le mur, etc. C'est que des idées auxquelles on croit. Et si on dépose tout ça, qu'est-ce qui reste ? Tout de suite, on sent en soi. Si on dépose toutes les idées qu'on a à propos de tout et n'importe quoi, tout ce en quoi on croit, l'histoire de moi, ce qui m'est arrivé dans ma vie, et pourquoi j'en suis là, et comment j'en suis arrivé là, etc. Si je dépose tout ça, si je dépose mes émotions, toutes les fois où j'ai été blessé, tristesse, colère, etc. L'amour, même l'amour. Je dépose tout ça un instant, quelques secondes. Qu'est-ce qui reste ? Vous avez une réponse ?
En tant que naïf et pas très évolué, je vous dirais qu'il reste quelque chose d'énorme, parce que je me pose la question, qu'est-ce qui reste ? Donc je n'ai pas tout déposé.
Déposer la question, qu'est-ce qui reste ? Déposer même cette question-là.
Oui.
Qu'est-ce qui reste ? Parce que tant que je dis, il reste la question, c'est encore mental. Et quand moi je pose la question, qu'est-ce qui reste ? Elle n'est pas mentale. Quand vous déposez la question, qu'est-ce qui reste ? Ressentez. Simplement ressentir qu'est-ce qui est là. C'est une question, non pas à poser avec la tête, c'est une question à laisser, qui nous travaille simplement, à déposer dans le cœur, à la rigueur. C'est délicat. Pardon ? Il reste ? J'ai pas entendu ? Allez-y, osez, mesdames.
Il reste moi tout nu.
Moi tout nu. C'est quoi ce moi?
Parce que.
Pardon?
On fait déposer l'amour, mes moments de colère, ma tristesse, même si je dépose tout ça, et c'est moi tout nu, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien, il reste moi tout nu, c'est pas rien. C'est quoi moi tout nu? Déposer le corps aussi. Les sensations, les perceptions. Oui, il y a un blanc, hein.
Oui.
Ah oui, il y a un blanc.
Ah là, plus grand chose, hein. Si je dépose le corps aussi, alors. Là,
apparemment, il ne reste pas grand chose. Mais il y a un blanc. Il reste une conscience. Une conscience du blanc, au minimum. Mais ça, c'est le stade où les yeux s'ouvrent et on est ébloui. C'est un blanc. Pour d'autres, ça va être noir. Mais si vous restez avec ce moment où, de blanc, entre guillemets, ce moment où le mental, il s'arrête, et où ça ne sait pas. Si on fait copain-copain avec ce blanc, pas du tout. Encore compris. C'est pas si vite que ça, hein. Osez. On ne va pas dans une salle de cinéma pour regarder un écran blanc. Imaginez que vous payez 7, 8, 10 euros pour aller au cinéma et vous restez là, 200, 500 personnes en face d'un écran blanc pendant une heure et demie. Et après vous sortez. Ça ne va pas le faire. On veut des images. Et on veut une histoire. On veut qu'il y ait une histoire qui se raconte. Sinon, on ne va pas payer. Parce qu'on aime les histoires. Mais quand on va au cinéma, dès que le film commence, on oublie l'écran blanc. Et pourtant, s'il n'y a pas l'écran blanc, on ne pourrait pas voir les images. Et l'écran blanc est toujours là. Les images, elles changent. Mais l'écran blanc, lui, il est toujours le même. Puis l'écran blanc, il s'en fiche de ce qu'on projette sur lui. Ça peut être un film d'horreur, un film d'amour, n'importe quoi. Pour lui, c'est pareil, hein. Pas de différence. À nous, c'est un peu pareil. L'être T, ce je suis, elle est tranquille. Et c'est sur elle, c'est en elle qu'apparaissent tout ce qui apparaît. Toutes les histoires, toute notre vie, cet organisme même apparaît au sein de cette conscience, de cette être-té. Et nous aussi, on adore les histoires au cinéma, mais on les adore aussi dans la vie. La différence, c'est que quand on va au cinéma, on sait bien que c'est une histoire. Alors, on vit quand même ce que vit le personnage, hein. Quand c'est triste, ça nous remue les tripes aussi. Mais quand on sort, on sait juste que c'était une histoire. C'était un beau film, on dit. Ou c'était un navet. Mais on n'en fait pas toute une histoire. Parfois, si, mais bon, c'est encore une autre histoire. Mais c'est pas grave. Tandis que quand c'est à moi que ça arrive, alors ça, c'est important. En fait, non. Ça n'a pas plus d'importance quand ça m'arrive à moi que ce qui se joue sur la scène d'un cinéma. Au théâtre. Ou dans un rêve. Regardez les rêves la nuit. Lorsque le rêve commence la nuit, le monde du rêve apparaît d'un coup. L'univers du rêve apparaît d'un coup. Et dans ce rêve, il peut y avoir 50, 100 personnages, 1000 personnages. Vous y apparaissez ou pas? Et vous pouvez apparaître dans votre rêve simultanément à 50 ou 100 ou 1000 personnages. Plus des animaux, plus des objets. Plus des... Et quand le rêve s'arrête, tout s'effondre d'un coup. En tant que personnage rêvé, vous disparaissez aussi. Et vous vous réveillez le matin, vous dites « Oh, j'ai fait un rêve. Il était horrible ou il était très beau, peu importe. Mais c'était qu'un rêve. » cette vie, c'est pareil. La nuit, quand vous rêvez, vous croyez réellement que vous existez en tant que personnage rêvé. Vous croyez réellement que vous êtes en relation avec les personnages de votre rêve. Et en réalité, il n'y a rien de réel. C'est pareil. Cette vie, cette existence, c'est la réalité du rêve. C'est peut-être un peu trop loin ce que je dis là. Il n'y a qu'un seul rêveur. Et il y a des milliards de personnages. Il rêve des milliards de personnages. Sauf que c'est un rêve éveillé. Je veux dire, c'est ce qui est, qui se rêve en tant que des milliards de personnages, l'univers entier. Et c'est un rêve éveillé. Il sait très bien qu'il est en train de rêver. Et c'est magnifique. C'est beau. Si vous n'êtes pas pris, ça peut être que magnifique. Vous croyez vraiment que vous êtes cet organisme corps mental. Vous y croyez pour de vrai. Comme la nuit, vous croyez vraiment que vous êtes l'organisme qui apparaît dans le rêve. Et ça a la même réalité. Ou la même irréalité. C'est réel. On ne peut pas dire que les rêves n'existent pas. Mais c'est une réalité temporaire. Non définitive. Et cette vie, cette existence, vous, en tant que cet organisme, c'est pareil. Nous n'avons qu'une réalité temporaire non définitive. Mais tant qu'on croit qu'on est cet organisme, alors forcément, on risque d'avoir peur de mourir. On va avoir peur de ce qui va nous arriver ou ne pas nous arriver. On souhaite des choses, etc. Et lorsqu'on sait qu'on n'est pas cet organisme, enfin, que cet organisme est une milliardième de fraction de nous-mêmes, tout est relativisé, c'est plus grave, c'est pas grave. Cet organisme peut vivre ou mourir, être malade ou en bonne santé, vivre des choses prétendument agréables ou prétendument désagréables, c'est tout un. Ça n'a qu'une importance relative, très relative, voire pas d'importance du tout. Et là, de nouveau, ne me croyez pas sur parole, surtout pas. Oui.
Je ne sais peut-être pas trop comment m'exprimer. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. C'est comment vous savez que votre réalité est la réalité. Et si c'est vrai, qu'est-ce que c'est la raison de la vie? Ou est-ce qu'il y a une vie?
Ben, comment vous savez que vous êtes une femme? Vous savez.
Oui, parce que je vois...
Bon, c'est des concepts homme-femme, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a une différence, ça ne fonctionne pas pareil, etc. Comment vous. Quand vous allez chercher des vêtements pour vous, acheter des vêtements, comment se fait-il que vous allez dans les magasins de vêtements pour femmes et pas dans les magasins de vêtements pour hommes? Ça n'a pas de sens. La question n'a pas de sens. Vous savez. C'est quelque chose de définitif, d'indubitable. C'est intégré.
Parfois, je vais dans des magasins pour
les hommes. D'accord. Mais vous savez que je suis dans un magasin pour hommes. Je suis désolé, l'exemple était mauvais. Comment vous savez qu'aujourd'hui, il y a des nuages dans le ciel? Vous regardez. Et vous le voyez. C'est pareil. Le regard ouvert, le regard à un moment donné, ça voit. Le truc, c'est que tout dans ce monde vous pousse à croire quelque chose d'erroné, de faux. Et donc, c'est difficile de remettre même en question l'idée qui nous est imposé depuis l'enfance, parce qu'on croit que c'est une réalité. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit que c'est comme ça. C'est comme, autrefois, les hommes pensaient que la Terre était plate. Ils avaient peur d'aller loin en mer parce qu'ils risquaient de tomber dans le trou. Mais la Terre tournait quand même, et les saisons alternaient. Un jour, les hommes ont compris que la Terre était ronde. Ils ont arrêté d'avoir peur de tomber dans le trou. Et la Terre a continué de tourner, et les saisons ont continué à alterner. Ça n'a rien changé en réalité. Sinon, dans le mental humain, c'est pareil. C'est une vision directe, une compréhension, un insight, qui fait que tout d'un coup, il est vu, il est réalisé qu'il n'y a pas de moi. Qu'il est vu, il est réalisé, je suis. Comment vous savez qu'il n'y a pas de chaise là? Ça se voit. Vous n'avez pas d'autre explication que ça. Et j'en ai pas d'autre non plus. Ça se voit. Chez moi, c'est devenu une évidence. Sans possibilité de retour en arrière. Et votre deuxième question était? Quel est le sens de la vie? Mais évidemment, quel est le sens d'un rêve? On peut donner plein de sens au rêve.
Oui, c'est le rêveur qui le fait.
Oui, ou qui ne le fait pas. On n'a pas besoin de donner un sens au rêve. On n'a pas besoin de donner un sens à la vie. On veut... Regardez, quand tout va bien, quand vous allez bien, vous ne cherchez pas le sens de la vie. Vous goûtez juste, ça va bien. C'est quand ça va pas, quand tout va pas bien, que quelqu'un d'autre autour de vous va pas bien, vous dites, mais comment ça se fait? Sinon, on ne cherche pas le sens de la vie. Et en fait, c'est comment ça se fait, on va l'orienter vers, en fonction de nos croyances, puisqu'il y a un moi, puisqu'il y a une recherche de bonheur, puisque je ne trouve pas le bonheur que je cherche. Il faut bien qu'il y ait une raison. On va orienter comme ça notre pensée, en fonction de nos conditionnements aussi.
Non, c'est pas vraiment ça que je voudrais dire.
Si vous voulez, la question se déplace de... Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être heureux? Ah. Comment se fait-il que je ne vis pas le bonheur que je suis? Puisque je suis le bonheur, l'amour, la joie, la paix, comment se fait-il que je l'incarne pas? Enfin, que je le sache pas, que je le vive pas?
Non, mais on existe.
Qu'est-ce qui existe?
On n'existe pas. Donc on n'existe pas.
Bah si,
nous, moi.
Mais qui moi?
Le moi.
Le corps, il est bien là. Il y a existence, il y a conscience, c'est indubitable. Mais cet organisme n'est pas gouverné par un auteur, par un pilote, par un moi. On va continuer à dire moi. Vous n'êtes de loin pas réductible à cet organisme. Heureusement. D'une façon générale, on croit qu'on est cet organisme. En réalité, nous sommes cela au sein duquel apparaît l'organisme. Et nous ne sommes pas séparés de cet organisme. Nous sommes aussi cet organisme. On pourrait parler du geste. Si je fais un geste, est-ce que je suis séparé du geste? Évidemment pas. Et en même temps, je ne suis pas mon geste et en même temps, je suis mon geste. C'est un petit peu cette dialectique-là. Et qu'est-ce qui en reste à la fin? Rien. La beauté du geste. Et la vie, c'est pareil. La vie, l'existence. La vie, l'existence, c'est simplement une apparition au sein de la conscience. Je vais dire ça comme ça ce soir. Une apparition au sein de la conscience. Comme un mirage. Mais la vie avec un grand V, c'est cela au sein duquel cette apparition peut apparaître. Et je dis je suis l'amour, je peux aussi dire je suis la vie, c'est pareil. Est-ce que ça répond un peu plus à votre question?
Oui. Mais je vais y répéter.
La différence, si vous voulez, c'est que lorsque l'on croit que c'est à moi que, c'est à, que les choses arrivent, que c'est mon histoire, que l'autre n'aurait pas dû faire ça et que l'on y croit, forcément, il y aura des moments, les vagues de l'existence vont succéder, il y aura des moments d'enthousiasme, de bonheur apparent, existentiel plus exactement, et des moments de souffrance. Lorsque l'on sait que c'est un film qui se joue sur l'écran de la conscience, ça relativise énormément les choses. Et c'est beaucoup plus facile d'être amusé, étonné et émerveillé. C'est même pas beaucoup plus facile, ça se fait de soi-même. C'est un petit peu quand vous allez voir un film comique. Généralement, ce qui nous fait rire, c'est des trucs pas très drôles pour celui à qui ça arrive quand ça lui arrive pour de vrai. Heureusement, on sait que c'est un film. Alors, ça devient drôle. Et bien, en fait, cette réalité, cette vie, cette existence, lorsqu'on n'est plus pris par l'histoire de moi, lorsque cette idée d'un moi s'effondre, devient un film comique. Devient étonnant, merveilleux, amusant, avec toujours un fond d'amour.
Et la mort de ce qu'on aime, par exemple?
Ça arrive. Il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de larmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tristesse qui va être ressentie. Ça veut dire que la tristesse sera douce. C'est encore de l'amour qui s'épanche. Ça veut dire que l'autre y vit en moi. Et que c'est su, c'est connu, c'est vécu. Ça ne veut pas dire que l'autre ne va pas me manquer à certains moments. Mais lorsque le manque est ressenti, il est comme épousé. Et alors à ce moment-là, ça devient quelque chose d'amusant. Ah, c'est drôle, ça manque. Il y a une sensation de manque. Mais on n'en fait plus une histoire. Il n'y a pas de réaction face à ce qui se présente. Tout ce qui arrive peut être complètement accueilli, épousé, peut prendre la place dont ça a besoin à l'intérieur. Alors ça traverse et ça ne dure pas. Généralement quelques secondes, pas plus. C'est un petit peu comme un enfant, vous savez, il tombe, il se blesse, il a mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il va dans les bras. Deux minutes après, il retourne jouer. Nous, on aurait bien encore envie de le serrer un peu dans les bras et tout, mais lui, il veut jouer. C'est fini. Parce qu'il a vécu son chagrin, il a vécu sa douleur, ça passe, il retourne jouer. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que les choses, elles arrivent, elles sont complètement vécues, mais zéro distance, complète implication. C'est complètement vécu, complètement épousé, alors ça traverse. Pourquoi les choses durent? parce qu'elles sont repoussées. Elles sont craintes ou elles sont jugées, négatives par exemple, etc. Alors, elles ne sont pas pleinement vécues. Alors, ça stagne, alors ça reste. Et là, on parlait du deuil et de la tristesse, du manque, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la colère, ça peut être l'enthousiasme, ça peut être n'importe quoi. Être blessé par la réaction de quelqu'un, par ce qu'il a dit. C'est pareil, c'est vous. Oh, ça choque un coup. Oh, tiens. C'est complètement épousé, le mot qui me vient ce soir, c'est épousé. Ça prend toute la place à l'intérieur. Mais il n'y a pas d'identification. Il y a complète implication. C'est complètement vécu, mais ce n'est pas identifié. Et c'est complètement vécu, et paf, ça se défait tout seul, sans rien faire. C'est la magie du regard, des épousailles. Et ça disparaît sans laisser de traces. C'est fini, c'est oublié. Le plus souvent, c'est oublié. Ici, en tout cas. Parle d'être blessé. Souvenez-vous d'une fois où vous avez été blessé dans votre vie. Vous pouvez même prendre la fois où vous étiez blessé le plus fortement. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Oui, tu te rends compte de ce qu'il a fait, il n'aurait pas dû. Le méchant, pour dire gentiment. Généralement, c'est des mots un peu plus forts qu'on donne. Hein. Ce qu'il a fait, c'est pas acceptable, hein? C'est inacceptable. On en est certain, ça. Mais tout ça, ça s'appelle des pensées. Tout ce que vous êtes dit à propos de ce qui s'est passé, ça s'appelle des pensées. Imaginez un instant qu'aucune de ces pensées ne soit apparue, aucune. Est-ce que vous êtes encore blessé? Beaucoup moins. Encore blessé quand même? C'est quelle pensée qui reste? Imaginez que les pensées apparaissent mais qu'elles ne soient pas crues. Les mêmes pensées apparaissent, mais vous dites, tout ça c'est des bêtises. Allez les pensées, circulez comme les nuages dans le ciel. Hein, ça heurte un coup et ça passe. De nouveau, on n'est pas blessé ou beaucoup moins. Autrement dit, ce qui nous blesse, c'est pas ce que l'autre fait. Ce sont les pensées que l'on a à propos de ce que l'autre fait. Et c'est pas seulement les pensées à propos de ce que l'autre fait, ce sont les pensées crues. Du verbe croire. Si les pensées ne sont pas crues, elles arrivent, elles passent. Si elles sont crues, elles sont arrêtées. Et alors ça devient une histoire. Et ça devient blessant. La blessure apparaît. Mais souvenez-vous de nouveau de la fois où vous avez été blessé. Là. Et quelles étaient les sensations dans le corps? Être blessé, ça se manifeste comment dans le corps? C'est dramatique à vivre, c'est vraiment insupportable. Mais dans le corps, c'est quoi la sensation? Bloqué, juste la sensation pure. Vraiment bloqué, c'est... Le corps n'est pas bloqué, il peut encore bouger. Vous n'êtes pas enserré dans un truc, là. Mal au ventre, mal au cœur. Mal au cœur, c'est pas une sensation. Cœur, on ne sent même pas. Mal où exactement? Mal. Qu'est-ce que je ressens exactement dans la poitrine? Tension, pression, frémissement, piqûre, chaleur, fraîcheur, des choses simples. parce que ça me tord les tripes, ça me brise le cœur, ok, mais c'est juste des images. En réalité, c'est pas vrai.
Cœur qui bat très vite.
Cœur qui bat vite.
Très vite.
D'accord. Rien de dramatique.
Non. Rien de dramatique.
Ouais.
Dans les paroles.
Je pense que dans la sensation physique.
Oui, sensation physique. Mais je pense que ce que je pense qui est difficile, c'est de. C'est qu'on est devant une situation où finalement on identifie la personne à ce qu'elle a fait. Et donc en fait on réagit à ce qu'elle a fait et comment arriver à séparer la personne de ce qu'elle a fait.
Mais déjà, séparer ce qu'elle a fait des pensées que vous avez à propos de ce qu'elle a fait. Parce que ça, là, vous êtes, il n'y a que vous, là. Et séparer les pensées que vous avez à propos de ce qu'elle a fait des sensations physiques que vous ressentez. Enfin, séparer, non. Revenez aux sensations physiques que ça la crée. D'autres personnes à propos de la blessure, qu'est-ce que vous ressentez dans le corps quand vous êtes blessé?
La nausée.
La nausée, plus précisément.
La colère.
La colère, c'est pas une sensation. La colère, elle se manifeste comment dans le corps? Les mâchoires serrées, par exemple, ou des choses comme
un
ça.
Tremblement.
Tremblement. Ça, je prends.
Échauffement.
Oui. Chaleur. Sensation de chaleur. Diffuse. Pourquoi pas. Picotement dans la poitrine. Oui. Non, vous allez me dire quelque chose? Non, je suis trompé.
Un truc étrange, pour moi, c'est d'un seul coup, à part le cœur qui bat très vite, c'est une acuité extrêmement grande, très très grande.
C'est-à-dire
que c'est comme si l'autre en face, qui a fait quelque chose, devenait faible sous le regard. C'est-à-dire que ma parole
stop.
Devient extrêmement forte.
D'accord. Voilà. Le « c'est comme si » est une pensée. Ma parole devient forte, c'est un phénomène. L'acuité qui est plus forte, c'est un phénomène. Le cœur qui bat vite, c'est un phénomène. D'accord, ça je prends. Le c'est comme si...
C'est une manière de décrire les choses.
C'est une manière de décrire, je sais bien. Oui, non, ce n'est pas une critique. Hein. C'est juste, attention, quand on revient au corps, c'est juste vraiment très précis. Et après, ce que je vous propose, c'est de rester avec ça. Le cœur qui bat fort, l'acuité... La force de parole.
Qui est véhicule de violence.
De violence?
Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire, c'est l'acuité du regard. Je sais ça, je ne le fais pas, mais je peux le faire. C'est-à-dire qu'il y a le passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est que quand je reçois quelque chose, je vais y répondre.
Oui.
Mais on est en combat, là. C'est-à-dire que quand j'ai été blessé, je me bats. Voilà ce que je veux dire.
Oui.
Mon corps.
Mais passe comment? Physiquement ou bien?
Non, c'est la parole.
Et la parole, des paroles méchantes ou bien
peut-être
structurantes?
Ça peut être méchant.
Ça peut être méchant.
Ça touche. Voilà.
D'accord.
Ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je dis un regard très aigu.
Oui, ok.
Je sais.
Non, mais moi, ce que je vous propose, c'est juste rester avec les sensations à ce moment-là. Le cœur qui bat, l'acuité forte, la parole forte. Exprimée ou non.
Et pour être très sincère, quand cette parole, enfin la vision très aiguë des choses et la parole très forte, et que la parole est envoyée, au moment où ça touche, il y a quand même une forme de plaisir pour ça.
Bah, évidemment.
Voilà. Il faut faire le tour.
Ouais.
Et donc après, je m'en veux.
Mais les pensées et les sensations, elles évoluent par rapport à un même événement. D'une heure après, le lendemain.
Exact. Bien sûr.
C'est fugace aussi. Alors que la situation n'a pas changé.
Oui, donc. L'événement demeure. Ce que j'en fais n'a pas de consistance. N'a que la consistance de l'instant que je lui donne un instant précis, enfin, qui lui est donné un instant précis par les pensées qui apparaissent, les sensations qui apparaissent à ce moment-là, auxquelles, on a, auxquelles une importance est plus ou moins accordée. Mais en réalité, en fond, il n'y a rien de solide dans tout ça. Le fait est un fait, ce qu'on en fait n'est pas solide, puisque ça varie avec le temps, avec mon état de santé du moment, mon état émotionnel du moment, les pensées du moment. Donc, c'est pas la peine d'en faire une histoire. Vous voyez ce que je pointe, ou c'est clair ou pas? Ce que je cherche à pointer là, c'est que on se raconte des histoires auxquelles on croit. Enfin, il y a des histoires qui se racontent et qui sont crues. Et ces histoires, en fait, elles créent notre vie. Quand les enfants jouent aux gendarmes ou aux voleurs, enfin, ça joue peut-être plus à ça aujourd'hui, je ne sais pas avec toi, joue. Peu importe, nous on jouait peut-être plus aux indiens, aux voleurs, des choses comme ça, à la poupée, au docteur, peu importe. Ils savent que c'est un jeu. Malheureusement, un jour, on leur dit, il y a l'âge de raison, maintenant, c'est sérieux. Puis ils veulent imiter papa, maman, et ils sont sérieux. Maintenant, on va jouer à être sérieux. Et quand on joue à être sérieux, on doit oublier qu'on joue, parce que sinon, on ne joue pas assez sérieusement. Puis après, il y a un enjeu. C'est plus juste du jeu, c'est du jeu avec enjeu. Et quand il y a un enjeu, il ne faut pas perdre, parce que sinon, ça peut être dramatique. C'est-à-dire que la nature du jeu se perd. Et on finit par croire à des histoires, à des rôles, à des façons d'être, de faire, etc. Alors qu'en réalité, c'est juste des jeux. Et comme en plus, on a oublié que c'était des jeux, ça devient dramatique pour de vrai, parce qu'on finit par s'en mettre sur la figure pour de vrai. Parce que c'est pas un jeu. Sauf que c'était quand même un jeu. Et tout ça gouverné par des pensées. Bon, c'est pas très clair tout ce que je viens de dire là. Ce qui me frappe, moi, c'est à quel point ce sont les pensées crues, du verbe croire, qui créent notre réalité, qui créent notre bien-être ou notre mal-être. Oh, je sens qu'il m'aime, regarde comme il est attentif avec moi. T'as vu, il m'a offert une fleur. Oh, c'est qu'il m'aime. Il jouait les violons. Ouais, t'as vu, il m'a même pas dit bonjour ce matin. Il m'a pas prise dans les bras. Oh, il m'aime plus. Il jouait les pleurs. Vous voyez ce que je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais dans les deux cas, c'est des pensées. S'il fait ci et ça, c'est qu'il m'aime. S'il fait pas ci et ci et ça, c'est qu'il m'aime pas. Ou s'il fait ci et ça, c'est qu'il m'aime pas. Mais ce ne sont que des pensées crues. Et pareil quand on est blessé. Il a fait ci et ça, c'est que. Oh là là, non, c'est une histoire. C'est des pensées crues. Et, entre guillemets, la pire de toutes, celle qui fait le plus souffrir, c'est la croyance en la pensée moi, en la pensée je, en la pensée individu séparé. Croire que je suis cet organisme corps mental, et que je pense, et que je effectue des choix, et que je pose des actes, ça c'est la pire de toutes. Parce que, tout à l'heure on parlait de la tristesse, lorsque par exemple on dit je suis triste, s'il y a l'idée d'un moi, il y a la pensée je, et la pensée tristesse, ou l'émotion tristesse, le ressenti tristesse, qui viennent s'accoler et faire un seul. Je suis blessé, moi et blessure. Je aime, moi et amour, etc., etc. Lorsque le moi, l'idée d'un moi s'effondre, est vue comme fallacieuse, une tromperie, il reste tristesse, il reste colère, il reste blessure, il reste amour. Mais ce n'est pas approprié. C'est regarder et ce que je suis, ce je suis que je suis, cet être-té dont on parlait tout à l'heure, ne peut que aimer ce qui apparaît, ne peut que être avec ce qui apparaît, ne peut que rencontrer ce qui apparaît, ne peut que l'épouser. Et sa vie au sein de cet être-té, au sein de ce que je suis. C'est libre.
je voudrais devenir.
Le, entre guillemets, le but, parce que pas franchement le but, de ces 4 jours, c'est de. En ce sens qu'il n'y a pas de but à atteindre, on est le but. Le but, c'est de, d'aller vraiment vers, de, vers cette réalisation de ce que nous sommes. De regarder de près, en fait. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? D'une façon générale, on cherche le bonheur, on veut aller vers quelque chose, on cherche à atteindre quelque chose. Le bonheur, l'unité, la paix, la joie, l'amour, peu importe les mots. Et ce qu'on rate complètement, c'est que nous sommes ce que nous cherchons. Nous sommes le bonheur, nous sommes la joie, nous sommes la paix, nous sommes l'unité, nous sommes l'amour. Et le but, c'est de réaliser ça. Parce qu'alors la recherche s'arrête, tout simplement. Parce qu'alors, une fois qu'il est réalisé qu'on est le bonheur qu'on a toujours cherché, forcément ça s'arrête, quelque chose qui s'arrête, qui se détend, et forcément le bonheur que l'on est commence à se manifester, l'amour que l'on est se manifeste de plus en plus. Et n'allez pas croire que c'est difficile à atteindre, que c'est compliqué, qu'il faudra je ne sais pas combien d'années ou de vie ou de je ne sais pas quoi. C'est faux. C'est faux. C'est une question de regard. Combien faut-il de temps pour ouvrir les yeux? C'est simple. C'est un anamarchi qui disait c'est tellement simple. Et c'est vrai. Enfin, quand ça s'est produit pour moi, mais pendant des semaines, une phrase qui me revenait tout le temps, c'est mais comment j'ai fait pour ne pas le voir plus tôt? Comment j'ai fait? Ça se tire une balle de simplicité. Tellement c'est simple. C'est une évidence. Une fois que c'est vu, c'est évident, quoi.
Mais comment faire pour arriver justement à avoir ce regard alors qu'on est conditionné depuis des années?
C'est là où il y a un intérêt à rencontrer des gens comme moi et à être avec des gens comme ça qui vont vous montrer de quel côté regarder.
Même si on le sait, si on le comprend,
ça suffit pas. Il y a comprendre, voir, réaliser. Comprendre, c'est oui, j'ai bien vu, quand je regarde, je vois bien que mes pensées elles arrivent, je vois bien que les choix ils sont en fonction de ma passion et que donc je choisis pas, enfin, etc. Ça, on va comprendre. Voir, c'est à un moment donné, c'est. Vous voyez, les yeux sous. Mais c'est vrai, il n'y a pas de chaise là. Oh. Mais les yeux, ils n'arrivent pas à rester ouverts, on pourrait presque dire. Et on repart dans l'idée qu'il y a un moi. Il a été vu qu'il n'y avait pas de moi, il a été vu que l'espace de la conscience était vide de tout moi, vide de pilote, vide d'auteur. Mais ça ne reste pas. Et puis, il y a encore ci, puis il y a encore ça, puis il y a encore. J'ai encore peur, j'ai encore en colère, j'ai encore triste, j'ai encore blessé, etc. Donc c'est que, par exemple. Parce qu'on a des croyances à propos de ce qu'est l'éveil, qui vont venir. Empêcher en fait la libre expression de cette réalisation. Et puis il y a des peurs. Ah, mais qu'est-ce que je vais devenir si je vis sans moi? Il y a une impression de dissolution, il y a une impression de je vais m'ennuyer, ou bien je ne saurais plus fonctionner dans le monde, ou comment je vais faire avec mes enfants, et puis mon travail, et puis peut-être je vais mourir. Il y a une impression de mort qui prend les gens. Il y a le vide. L'impression de vide, des choses comme ça qui peut saisir les gens, qui fait que ils y vont pas. Et c'est là où on a besoin d'être accompagné. Vu d'ici aujourd'hui, ce que je dirais, on a besoin d'être accompagné. Parce que la personne qui est en face est libérée de ça, qui elle a vu tout ça, elle peut vous dire, mais attends, t'as peur, ok, t'as peur, viens, regarde. On va regarder ensemble ta peur.
Mais c'est un accompagnement de
précis.
Oui, de toute une vie.
Non. Non.
C'est avoir un être ici.
Non. Marion, combien de temps il faut?
Oui, c'est ce que je cherche, mais je ne
sais pas. Ça, tu ne peux pas. Et je ne peux pas le faire et tu ne peux pas le faire. Personne ne peut le faire parce qu'il n'y a pas de moi qui puisse le faire. Et lorsqu'il est réalisé qu'il n'y a pas de moi, ça se fait immédiatement. C'est à un moment donné, tu es saisi. À un moment donné, tu es saisi.
J'ai compris, mais j'arrive pas à aller au-delà de la compréhension.
Tu ne peux pas. N'essaye même pas. C'est comment quand je dis ça?
On n'a rien à faire.
Oui, mais c'est comment quand je dis ça? Tu ne peux pas, n'essaye pas.
C'est pas moi, c'est...
Quand je te dis n'essaye pas, tu ne peux pas.
Oui.
C'est comment?
C'est comment quoi? C'est...
Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je cherche pas dans la tête, ressens.
Ouais. que c'est possible. Je ressens il y a une possibilité, mais je me sens en colère un peu parce que je...
Ok, reste avec la colère. Voilà, Goûte la colère.
Je suis en colère parce que j'ai travaillé sur moi, j'arrive pas.
Ok.
De temps en temps, j'y suis
allée.
Ok. Part, ça repartait.
Quelle chance.
Oui, mais j'ai compris, je suis allée, mais ça revient à chaque fois.
Mais quelle chance. Mais et si tu en tirais la leçon, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas.
Oui, d'accord.
Je n'y arrive pas. Écoute ce que tu dis. Je n'y arrive pas. Donc stop ! Arrête d'essayer ! Ça ne marche pas ! Qu'est-ce qui se passe là ?
Oui, c'est quelque chose qui s'ouvre là, oui.
Voilà. Combien de temps il faut ? Tu vois, c'est ça l'accompagnement. Pour moi, c'est ça. C'est là où vous allez être au moment précis où vous y êtes. À un moment donné, je vais vous saisir. Regarde là. C'est ça qui va se passer pendant 4 jours. Et tu vois que c'est immédiat. Ce moment où je te saisis, si tu prends une demi-seconde pour regarder, écoute ce que tu dis. Tu le disais déjà, j'y arrive pas. Mais moi, je te dis juste, écoute. Alors arrête, puisque tu n'y arrives pas. Et c'est immédiat. Il ne faut rien de temps. C'est une question de regard. Que le regard se porte au bon endroit, au bon moment. Ouais, là, tout de suite, c'est sûr, j'y arrive pas. Que tu répètes inlassablement et que tu n'as jamais écouté. Mais quand tu l'écoutes et t'en tires la conclusion, oh, bah, alors je vais arrêter. Et bah, pouf, ça se détend. C'est tout de suite, c'est immédiat.
Ça devient très vaste.
Eh bien oui, l'espace, il est là. Et si tu restes avec cet espace, il est vide et plein à la fois. C'est ce qu'on appelle l'être-té, c'est le je suis. Et là, tu le goûtes, là. Tu peux laisser couler les larmes. Parce que c'est aussi simple que ça. Et tu vois qu'il n'y a rien à mériter. Il n'y a rien à mériter. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est ça le vrai sens de « il n'y a pas d'effort à faire ». C'est celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Merci. Merci.
Wow.
Reste avec. Oui. Vous aviez commencé quelque chose. C'était vous, je crois. J'avais pas fini, du coup, je suis revenu à elle. Vous avez commencé à dire quelque chose, non?
Il n'y a rien à faire,
oui. Oui, mais ce n'est pas ne rien faire. Ce n'est pas faire rien. Parce que faire rien, c'est encore faire quelque chose. Il y en a qui récupèrent le concept non-duel de ne rien faire et qui se disent, bon bah, puisque c'est ça, de toute façon, moi je peux rien faire, il n'y a pas de moi, donc je peux rien faire, alors maintenant je ne fais plus rien. C'est de la récupération d'un concept. C'est pas du tout ça qui est dit en réalité. Si vous voulez, jusqu'à présent, on est toujours tendu vers. On met en place des stratégies, des techniques pour atteindre quelque chose. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit au contraire de l'arrêt de toutes les stratégies. Vous voyez, puisque tu n'arrives pas, bah arrête. C'est l'arrêt de l'essai. C'est l'arrêt de la stratégie. Il ne s'agit pas d'aller vers grâce à une stratégie. Il s'agit d'être avec. Par curiosité, par amour de la vérité, par simplicité, par honnêteté. Ça ne marche pas, je m'arrête. C'est par, c'est pas pour. Et c'est pas rien.
Nous sommes là, donc nous attendons quelque chose.
C'est OK. Rencontre l'attente. Comment ça vit l'attente dans le corps ? Quelle sensation physique ?
Quand on manque.
Non, c'est pas une sensation physique, le manque. Une tension ou ça ?
Dans tout le corps.
Et toi ? Comment tu sais que tu attends, qu'il y a une attente ? Il faut bien que ce soit ressenti quelque part dans le corps. C'est subtil, c'est délicat. Tu parles d'attente, c'est bien qu'il y a une sensation qui correspond. Alors tu restes avec l'attention dans tout le corps, tu la goûtes, tu l'explores curieusement, avec curiosité. Tu sais, comme un gamin qui regarde les fourmis pour la première fois, comme un explorateur de l'Amazone alors qu'il n'y est jamais allé. L'autre exemple que j'aime beaucoup, c'est comme une maman qui prend son bébé dans les bras, tu sais, elle est là comme ça, complètement craquée, tu vois, pleine d'amour, de délicatesse, de tendresse. On fait comme ça avec la culpabilité, avec la colère, avec la haine, tout ça. De prendre dans les bras avec amour, tendresse, délicatesse. Tu vois, t'es là, t'es... Tout cet amour. Zéro distance, hein, quand on a un bébé dans les bras. Complète implication. Et pas d'identification. On sait très bien que c'est pas nous, le bébé. Pareil, quand vous regardez un gamin qui regarde quelque chose. Zéro distance. Et pas d'identification. C'est pleinement vécu. Fais comme ça avec les tensions de l'attente. On a n'importe quoi d'autre. Et il ne s'agit pas de faire quelque chose de ce qui est là, mais d'être avec, d'apprendre à le rencontrer vraiment. À être vraiment complètement avec. Et cette magie du regard, le regard par sa magie propre, fait que les choses se transforment. Tu vois, comme, je ne sais pas quel est ton prénom derrière, juste, oui.
Marielle,
juste d'être avec, j'y arrive pas, bah oui, tiens, j'y arrive pas, bah alors j'arrête, pouf! On n'a rien fait! On a juste, mais écoute ce que tu dis, et tiens-en compte. J'y arrive pas, ben arrête. Ça n'a pas la peine de continuer à essayer. C'est une simplicité, je veux dire. C'est bête comme chou, quoi. On n'a rien fait. On a juste été à l'écoute de ce qui se disait, et on en a tenu compte. C'est pas en ce sens-là, c'est ne rien faire. Et porter le regard sur tout ça, c'est pas rien faire, c'est pas neutre. Mais ce n'est pas une stratégie. Parce qu'en réalité, nous sommes ce regard. On ne développe pas le regard. Nous sommes le regard, comme nous sommes l'amour ou le bonheur. Nous sommes ce regard. Ça, c'est aussi à réaliser à un moment donné. C'est vu. C'est trop d'efforts.
Ah.
On pourrait parler à la rigueur d'acuité du regard. Toi, c'est quand on te montre, oh, regarde là-bas, t'as vu, il y a un satellite, une étoile qui bouge un peu dans le ciel.
Mais où ça? Je vois pas. Regarde, elle est là. Regarde, tu vois, là, elle passe au-dessus du sapin, puis regarde, là, au-dessus du toit de la cheminée. Puis on va se rapprocher de l'autre pour avoir le même angle de vue que lui. Tu vois? C'est tout. C'est cette acuité du regard. Regardez juste pile dans la bonne direction pour voir ce que l'autre montre. Mais si tu regardes le doigt, tu verras rien. C'est pas les mots qui sont importants. Si ce vers quoi il pointe. Mais voir, c'est naturel. Mais vous ne vous souciez pas de comment ça fonctionne et comment ça va se faire, parce que bon, comment ça va se jouer. Ça va se jouer tout seul. J'ai rien prévu avec Marielle. Ça s'est fait tout seul. J'ai rien fait, entre guillemets. Et c'est tout le temps comme ça, ça se fait. J'essaye pas, je n'ai pas calculé ce que j'allais vous dire ce soir. Ni le ton de ma voix, ni la position, ni... J'avais pas prévu de mettre un pull, moi je suis parti de chez moi, j'étais en Bermuda et je me disais. Par exemple, toutes ces choses, tout arrive comme ça de soi-même, les choses se passent en fonction d'eux, quoi, c'est tout. C'est la vie qui se meut, c'est une danse. Beau sourire. Vous voulez dire quelque chose ou juste rigoler?
C'est drôle.
Ah oui, c'est drôle. Bien sûr que c'est drôle. C'est un jeu. Beaucoup plus amusant qu'on ne croit. L'obstacle, c'est les croyances. En l'absence de croyances, vous êtes déjà ce que vous êtes et ce que vous avez toujours été, que vous ne pouvez pas ne pas être. C'est les croyances qui viennent voiler ça. C'est clair ce que j'ai dit. C'est évident. La seule différence entre vous et moi, c'est la croyance en l'idée d'un moi. Vous croyez qu'il y a un moi, et ici, c'est évident qu'il n'y en a pas. Le reste découle de cette réalisation.
Bon, après, il y a des personnalités différentes. Cette personnalité-ci, cet organisme-ci a toujours, depuis qu'il était petit à l'école primaire, mais déjà aidé les copains qui n'y arrivaient pas. Puis j'ai enseigné pendant des années, enfin, j'ai fait des conférences grand public pendant des années, etc. Donc il y a une propension à parler comme ça, puis j'adore ça à partager, et puis saisir les gens, aller leur montrer ce qu'ils ne voient pas. J'adore. Cette personnalité adore. Donc ça se fait, ça se continue, ça se fait tout seul. Puis peut-être que toi, ta personnalité, ben, c'est de jouer de la musique, alors tu joues de la musique. Ou si c'est cultiver les gens, je crois que c'est cultiver les gens, peu importe. On est rendu à notre nature d'organisme. Et celle-ci, pour l'instant, en tout cas, c'est partagé. Tu vois ? Mais par contre, le bonheur que tu es s'exprimera de cette manière spécifique à travers cette personnalité, mais s'exprimera forcément. Et ce qui fait qu'il n'est pas réalisé que tu es le bonheur, l'amour, la paix, la joie, l'unité, c'est la croyance en la pensée moi. C'est la seule chose, c'est la seule différence entre toi et moi, entre vous et moi, enfin, entre tout le monde, quoi, enfin.
J'aurais une question. Pour vous, ça arrive à partir de quel moment que tu es du bébé, quand tu es...
J'en sais trop rien. 2 ans.
C'est l'apprentissage finalement qui fait cette croyance.
Pas seulement. Parce que justement, j'ai essayé de voir un petit peu. Quand je regarde comme ça des enfants, des bébés, il y a les sensations, les perceptions. C'est très fort. On y croit. Ça donne une impression de réalité. Ça donne une impression de corps. Puis il y a le stade du miroir. Ça, c'est peut-être l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité. Où l'enfant se reconnaît dans la glace. Il voit qu'il a un corps avec des limites. Mais fermez les yeux un instant. Et ressentez le corps. Oubliez tout ce que vous savez sur le corps, la mémoire, l'image que vous en avez, etc. Ressentez le corps, là, maintenant, les yeux fermés. Et quelle est la sensation? Est-ce qu'il y a des limites précises ou non? Est-ce qu'il y a des sensations ici et là, limitées? Non limité ou quoi d'autre? Et entre les sensations, est-ce qu'il y a une impression de vide ou est-ce que vous voyez, percevez avec conscience de l'espace entre les sensations? Et est-ce que ces sensations délimitent un corps avec des limites précises ou pas? C'est clair pour vous, ouvrez les yeux et me répondre. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'idée de limite dans la sensation. Et l'espace entre les sensations, il est perçu? Oui. Il y a des sensations. Il y a un espace entre les sensations et l'espace, écoutez bien ça, l'espace entre des sensations est perçu. Comment c'est possible puisqu'il n'y a pas de sensation? C'est ça, vraiment, la perspective, c'est ça, c'est regarder de près quelle est la réalité. Dès qu'on regarde, on voit que l'espace entre les sensations est perçu. Mais quand même, ça interroge. Il y a un espace là. Et les limites physiques disparaissent. Il n'y a pas l'idée de limite physique dans la sensation. Il faut une image. Il faut une perception visuelle. Et le stade du miroir vient bien donner l'idée qu'il y a une limite précise au corps. Et puis après, il y a l'idée d'un moi. Regarde ce que tu as fait! Mais tu ne dois pas faire ça. C'est mal. Des choses comme ça qui viennent. Tu vois ? Fais attention. Comme si on pouvait. Et ça vient cristalliser l'idée d'un moi. Parce que les parents ont l'idée d'un moi aussi. Il n'y a pas besoin de raconter aux enfants qu'il y a un moi. Simplement, les parents ayant cette idée d'un moi, transmettent cette idée d'un moi.
comment fait-on pour éduquer l'enfant?
I don't know. On fait tous du mieux qu'on peut.
À partir de la perception.
Non, et tant que c'est pas déjà quand, tant que c'est pas clair pour nous qu'il n'y en a pas compris, vu, réalisé, ça va continuer ce jeu comme avant. C'est pas la peine de raconter des histoires. Et après, on va faire en fonction de là où on est. Mais moi, je ne me pose pas la question de savoir comment je fais avec les gamins. Ça se fait. Je vois juste que je réagis généralement pas pareil que les parents habituels. Enfin, c'est plus les miens, les miens. Mais même avec les mères, je réagis pas pareil. Je vais pas aller leur dire c'est bien ou c'est mal, ou que. Je sais pas. Il y a moins d'orientation, il y a plus d'écoute, il y a plus de présence à simplement ce qu'ils sont. Ce qui me frappe, c'est par exemple dans les magasins, les mamans qui veulent tenir leur gamin à tout prix, qui bien sûr ne demandent qu'à jouer parce que c'est dans leur nature. Ou bien qu'ils marchent sur les pieds, ou bien. Je sais pas, je dis toujours, mais c'est normal. C'est un enfant, c'est normal qu'il joue, il ne peut pas jouer. Donc c'est normal qu'il pose des questions qu'on ne pose pas normalement. C'est normal qui attire mon attention de manière ou d'une autre, c'est normal. Les enfants, ils sentent bien quand c'est ouvert en face. Hein. Même si on n'a rien dit, si on n'a changé aucun mot, ils ne se comportent pas pareil non plus. Mais je n'essaye pas de faire quelque chose de plus. Pardon.
Ce qui est difficile, c'est aussi de se dire que l'on vit quand même dans ce monde-là avec un carcan, quelque chose de bien cadré, fermé dans une société, que l'enfant va pénétrer dans la société. On ne lui demande pas.
Tout ça, c'est des idées, c'est des pensées. Qu'est-ce qui prouve qu'elles sont vraies? Rien. Donc, c'est pas la peine de les croire sur parole. On peut les laisser passer comme les nuages dans le ciel. C'est juste des pensées. On ne sait pas. En réalité, on ne sait pas. Et en plus, je m'en fous. Parce qu'au moment où je suis avec un enfant, je ne m'occupe pas de savoir ce qu'il viendra dans 10 ans.
On n'entend que tellement.
Ah non. Qu'est-ce que j'en sais de ce qu'ils vont devenir mes enfants? Je sais si clairement je suis avec lui. Avec ce que je suis et lui avec ce qu'il est. Et en fait, il y a une confiance de fond et je me reprends un temps pour dire je suis la confiance même comme je suis le bonheur même. Ça ne peut pas ne pas fonctionner. Il n'y a aucun souci, même si demain le gamin il meurt, c'est pas un problème. Au sein de ce rêve. Ça, c'est le deuxième stade. Le premier stade, c'est réaliser qu'il n'y a pas de moi. Et donc, l'identification à l'être T où je suis. Et le deuxième stade, c'est que même ce je suis est connu. Vous êtes conscient. Vous êtes conscient d'être conscient. Qu'est-ce qui est conscient du fait que vous êtes conscient d'être conscient? Cherchez pas avec la tête, hein. Généralement, le mental disjoncte. Vous savez que vous êtes. Vous savez qu'il y a des phénomènes qui se passent dans le monde. Vous savez que vous êtes. Mais ce je suis, cette être-té, elle est connue. Qu'est-ce qui la connaît? Le mental est essoufflé. Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu et qui lui-même ne peut pas être connu? Parce que sinon, il ferait partie du connu, donc il serait connu. Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu et ne peut pas être connu? C'est un koan, parce que comme ça ne peut pas être connu, je ne peux pas le connaître. Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu? Cette être-té, elle est constatée, elle est connue. Qu'est-ce qui la constate? Qu'est-ce qui la connaît? On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Mais bon, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est évident qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'il connaît. C'est-à-dire que c'est à la fois indubitable et insaisissable. On ne peut pas aller plus loin. que ça. Et à un moment donné, on a absorbé une part au sein de ce que j'appelle ce qui est. Ce que j'appelle le second degré, entre guillemets. On va être des mots dessus, ça ne veut rien dire. Et là, là, il est vu, à ce moment-là, si vous voulez, le premier éveil, c'est il est vu, il est réalisé, je suis, il est réalisé qu'il n'y a pas de moi. Le second éveil, il est réalisé, je suis cela qui seul est. Il est réalisé que tout est illusoire, que tout n'est qu'un rêve. Et alors là, ce qui se passe en rêve, on en fait complètement partie, on y est complètement dedans, mais ce qui se passe au sein du rêve, alors vraiment, peu importe, je suis ce qui englobe la totalité du rêve. Je suis ce qui englobe tous les handicaps, tous les malheurs, toutes les morts, toutes les naissances et tout le reste. Tout arrive en moi, au sein de cet amour que je suis. Tout est embrassé, tout est épousé, tout est aimé. Et là, au sein de ça, il ne peut rien arriver. Il ne peut rien arriver de mal. C'est pas possible, même si apparemment au niveau du corps ou de l'organisme, il se passe quelque chose de désagréable, en soi, il ne peut rien arriver de désagréable, de négatif. Ça, tous les concepts disparaissent. Négatif disparaît. Tu voulais dire quelque chose?
Peut-être, la question après derrière, c'est peut-être que ça n'a rien à voir, mais les karmas.
Ça fait partie du rêve.
Le rêve irréel est réel.
Ce qui arrive au niveau existentiel a une réalité existentielle. Je suis en train de bouger la main, c'est réel. Existentiellement. Un film, c'est réel. Il y a bien des images qui sont projetées sur un écran. Mais en réalité, c'est une réalité temporaire et très irréelle. Un rêve, c'est réel. On rêve, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est irréel. Et ça, c'est pareil. C'est la même réalité, la même irréalité. C'est réel, mais pas définitivement réel. Dans les traditions d'Orient, on dit que c'est illusoire. Carrément, je préfère une réalité relative. Le karma, évidemment, fait partie de ça. Le karma, c'est une illusion. Mais même dans l'hindouisme, on le dit. Le karma, dharma, c'est illusoire. En définitive, c'est illusoire. En soi, c'est illusoire. En réalité existentielle, bah évidemment, tu as vu. Tu jettes un caillou dans l'eau, ça fait pouf et ça fait des ronds. C'est ça le karma, faut pas oublier. Hein. C'est action, réaction. C'est indubitable. Mais quand il est connu que tout est illusoire, il est vu que le caillou, l'eau, les ronds dans l'eau, et les ronds dans l'eau, tout ça, en réalité, il n'y a rien. C'est juste une apparition. Comme un rêve, ça apparaît à la conscience, mais il n'y a rien de réel. Et les sensations dans le rêve sont réelles, apparemment réelles. En réalité, elles ne sont pas réelles non plus. C'est pareil.
Ce deuxième stade, tout est illusoire. On s'en fout, non?
On s'en fout?
Ouais.
Ouais. Et non. Non, pour moi, le... On ne gouverne rien de tout cela, d'accord? Mais pour ma vision à moi, c'est que réaliser qu'il n'y a pas de moi, c'est déjà l'opportunité de la fin de toute souffrance. L'opportunité de la fin de toute souffrance. Pas la fin de toute souffrance, l'opportunité de la fin de toute souffrance. Et c'est déjà la fin de la recherche telle qu'on la connaît, la fin de cette tension constante qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en permanence tendu. Il y a un vrai relâchement. Il y a une réalisation qu'on est l'être-té. Il y a une réalisation qu'on est le bonheur, la paix, la joie, l'amour, etc. Pas forcément immédiatement. Ça peut être un après-coup. Ça, il y a le moment de la réalisation. Punaise, mais c'est vrai, il n'y a rien là. Il n'y a pas de moi. Et puis après, il y a les conséquences qui viennent petit à petit après-coup. Ça prend du temps. Hein? Donc, ce que je vise d'une façon générale, c'est ça. Après, si on m'interroge sur plus, bien sûr, je suis plus loin. Mmh, tu vois ? Mais d'une façon générale, je vois là, je vais là. Tu vois, les bouddhistes, ils décrivent quatre êtres nobles. Ils parlent d'entrer dans le courant. Et le premier, c'est ça. C'est réaliser l'absence de tout, d'un individu séparé, de moi, de la pensée « je », avec l'absence de doute par rapport à ça, et puis un troisième critère dont je ne me souviens plus. Le deuxième stade, c'est la diminution du désir et de l'aversion. Ce qui veut clairement dire que c'est pas encore, parce qu'il y a déjà être noble, et il y a encore des désirs et de l'aversion, et il y a seulement diminution au deuxième stade. C'est le troisième être noble, où il n'y a plus de désir et plus d'aversion. Et c'est le quatrième qui est arhat, qui est sans souffrance. Ça veut clairement dire que ce n'est pas la fin, quoi. Il y a aussi un sage hindou dont je voulais oublier le nom qui dit « Avant l'éveil, on est sur la voie vers la voie. Après l'éveil, on est sur la voie. » Ça veut clairement dire que ce n'est pas fini. Mais c'est complètement autrement, parce que la recherche telle qu'on la connaît s'arrête. Il n'y a plus de mise en place de stratégie. Il y a vision directe des mécanismes qui peuvent se mettre en place. Et les choses apparaissent, elles sont vues, elles s'effondrent immédiatement. Dès qu'elles sont vues, ça s'effondre.
Tout est accepté.
Pas forcément immédiatement, mais dès que le regard se porte dessus. D'accord. Et simplement, comme il n'y a plus l'idée d'un moi, le regard se porte plus facilement dessus, et c'est plus facilement, et tout est plus facilement vécu de façon directe, intérieure. Toi, c'est plus... Il n'y a plus tous ces freins, toutes ces interdictions, toutes ces peurs à vivre la culpabilité. Là, on monte le sentiment de responsabilité. Être blessé, être triste, être en colère, être joyeux, être enthousiaste. Tout ça, ça peut venir. Tout est bienvenu. Tu vois ? Même le jugement. Même le refus. Parce que la peur de la peur, le jugement à propos du jugement, le refus à propos du refus, le refus du refus, tout ça a disparu par contre. Donc, le refus arrive. Ah tiens, ça refuse. Comment c'est quand ça refuse ? Bon, c'est tonique. Tu vois, c'est sympa. Tu vois ? Et la peur, c'est amusant. Et la tristesse, c'est doux. Et la colère, c'est fort. Tu vois, mais c'est vécu, mais waouh ! Ah tiens, c'est drôle, ça refuse. Oh, ça juge. Waouh ! Wow ! Oui. Ça se prend sérieux quand ça juge. Tu vois ? Et ça vit tout ça. Mais c'est comme ça y croit pas, ça peut pas y croire. Dès que le regard se porte dessus, ça cesse d'y croire. Donc ça colle plus. Ça se décolle et ça s'effondre. Ça joue. Ça apprécie le jeu. Encore mieux. Ça, c'est amusé de voir le jeu se jouer. Non seulement ça joue au niveau existentiel, mais en plus ça apprécie, ça s'amuse de voir le jeu se jouer. Enfin, c'est amusement, et l'amusement, d'après ce que Dose dit, c'est pas tout le monde. Donc, chez moi, l'amusement est très fort, mais c'est pas tout le monde. Il y a amusement, étonnement, émerveillement, amour. Si je devais dire. Et avec l'un est plus ou moins fort selon les moments, ou l'autre, etc. Mais il y a toujours, chez moi, et en tout cas, il y a toujours ça. Et dans la vie, je suis comme tout le monde. Hein.
Ce qui est bien quand tu parles, c'est que t'es un mec, t'as pas d'histoire. Quoi.
Voilà. Pardon ?
T'es un mec, t'as pas d'histoire.
Alors,
et c'est. Ça nous incite à cette simplicité. Ouais.
Je ne crois pas aux histoires.
Non, mais justement, les histoires, on se les invente, quoi.
Non, on ne se les invente pas. Elles apparaissent, elles sont crues, de fait. Il n'y a personne qui invente les histoires, elles apparaissent.
Non, mais c'est pour dire... c'est lié à la croyance en un moi qui a une histoire.
Oui. Mais c'est que des croyances. C'est quelque chose qui apparaît. Il n'y a personne qui croit en un moi. Mm-hmm. Il y a croyance en un moi. Il n'y a personne qui croit aux histoires. Ça croit aux histoires. Mm-hmm. ou ça ne croit plus aux histoires.
Oui. Mais quand on t'entend parler, on a l'impression que tu ne pratiques pas les histoires. Toi.
Non, pas tellement. Je les joue, mais je ne les pratique pas. Et souvent, j'y coupe court. Et la croyance en la pensée moi est une histoire à dormir debout. Et j'y crois pas.
Je pensais ça dans le train. Je dis, je suis pas éveillé, mais je me frotte les yeux.
Mais
je me frotte les yeux.
Tu sais, ça veut rien dire, je suis éveillé, je suis pas éveillé. C'est, en tout cas, ne mettez pas une différence entre ceux qui sont éveillés et ceux qui le sont pas. En fait, tout ça, c'est que des mots, ça veut rien dire. Mais rien de rien, de rien, de rien. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Il n'y a que la croyance en la pensée de moi. Je veux dire, arrêtez d'en faire un monde. Et ensuite, une fois que cette croyance en la pensée de moi s'effondre, c'est qu'une croyance qui s'effondre, quoi. Le jour où vous avez arrêté de croire au Père Noël, le monde s'est effondré. Mais pas pour très longtemps. Et c'est le même phénomène. Après, la vie continue. Et les enfants continuent à jouer. Qui croit au Père Noël ou pas, ils passent leur temps à jouer dès qu'ils peuvent. Parce que c'est dans la nature de l'enfant. Et c'est pareil pour nous. Notre nature est une nature de jeu aussi. Pour moi, d'ailleurs. Pour moi, mais bon, là, j'en cache que moi. Mais... Il n'y a pas de différence, c'est-à-dire la vie continue à se dérouler. J'aimais le chocolat avant et les bains de mer, et je continue. Quelques petites autres choses. Je veux dire, ça continue. La personnalité demeure. Les intérêts personnels demeurent dans l'ensemble. Il y en a qui s'effondrent, mais dans l'ensemble, ça demeure. Ça continue à fonctionner comme avant. Et en même temps, c'est radicalement différent. Parce que justement, il n'y a plus toutes ces prises de tête, il n'y a plus d'histoire crue, ou tellement moins que ça fait une énorme différence. Et dès qu'il y a quelque chose qui est cru, dès que le regard se porte sur une croyance, ça ne peut pas durer. Généralement, c'est quelques secondes. Il est arrivé, de mémoire, il est arrivé deux fois que ça dure quelques heures. Une fois, une journée et demie. Ça, c'était très très long. Imaginez. Mais c'est simplement parce que je ne voyais pas la pensée crue. Et dès l'instant où la pensée crue a été vue, trois secondes après, c'était fini. Je ne sais plus de quoi il s'agissait.
Pardon ? J'ai envie de dire, on parle de quoi quand on a une histoire ?
Oui, j'ai beaucoup parlé ce soir. On parle de la vision. On peut se taire, ou on peut parler de ce qu'on voit directement, ou on peut parler de la pluie, du beau temps. Ce soir, j'ai parlé de ce qui est en permanence vu ici. Mais souvent, les gens ne veulent pas en entendre parler de ça. Quand je commence, je joue au bridge, par exemple, quand au bridge, je dis, mais qu'est-ce que tu fais quand tu vas en séminaire comme ça? De quoi tu leur parles aux gens? Déjà, je commence à avaler ma salive, parce que je sais que ça ne va généralement pas être entendu. Et je leur dis, bien... Je leur explique qu'en réalité, il n'y a pas de moi et que personne n'a jamais rien fait. De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est tout. Souvent, ça s'arrête là. Parfois, ça va un peu plus loin. Mais si tu veux, il n'y a rien à défendre, donc c'est ok. Quoi. Les gens sont comme ils sont, c'est merveilleux comme ça, il n'y a rien à vérifier. Après, si les gens interrogent, demandent, oui, bien sûr. Mais ça peut, comme toi, ça peut parler de tout et de rien. Mais ça raconte ça beaucoup moins que des histoires. Ça peut. C'est plus à l'écoute, c'est plus en empathie, mais ça peut-être c'est lié à moi aussi, je ne sais pas. Je suis beaucoup avec, quand même, beaucoup avec les gens aussi, quand je suis avec eux. Et c'est, il y a des choses là, tout ça, qui sont liées à cet organisme. Tu ne seras pas différente de ce que tu es. Libre de tes histoires et pas différente. Tu rentreras plus pareil dans les histoires. Tu y crois, mais ou si tu y rentres, tu n'y croiras plus pareil. Ou voire plus du tout. Plutôt plus du tout d'ailleurs. Mais ça n'empêche pas de les jouer. En sachant qu'on les joue. Ça peut être. Mais tiens, ça devient même plus amusant, ça devient de vraies histoires, tu vois. Et, enfin, c'est. On sait que c'est une histoire. Il n'y a pas de mal à se raconter d'histoires, à jouer avec les histoires. C'est amusant. C'est pour ça qu'on joue aux indiens, aux cow-boys, à la poupée, aux petites voitures, etc. C'est pour s'amuser. Et après, on joue à s'aimer, on joue au bridge, on joue à se baigner en mer, on joue. C'est pour s'amuser.
Mais les contes pour enfants, donc les histoires, ont quand même une intention derrière. Donc,
c'est juste. Je sais pas.
Il y a des morales derrière. Et la plupart des contes traditionnels ont une morale derrière. Donc on introduit une idée particulière. Donc on commence déjà à former l'esprit de l'enfant à ces choses-là. Donc on ne devrait pas leur raconter ces histoires. Parce qu'il ne s'agit pas du Père Noël.
C'est, je ne sais pas.
Il y a le bien, le mal, tu fais pas. C'est, ouais, voilà. Il y a
tout
ça
pas.
Qui, dans les contes traditionnels, c'est que ça.
Mais il y a le bien et le mal au niveau existentiel.
Pardon ?
Il y a le bien et le mal au niveau existentiel.
Oui, mais on leur apprend, c'est-à-dire qu'on les forme.
Oui.
C'est-à-dire que ce qu'ils vont penser, c'est ça, il y a le moi qui est permanent là-dedans.
Je ne sais pas, il faudrait que je relise les contes. Quel longtemps je n'ai pas raconté de contes aux enfants. Mais il suffit de lui dire, tu sais, tout ça, c'est une histoire. Les gamins, ils intègrent très vite.
Pour l'histoire elle-même, certainement. Et d'ailleurs, ils n'ont presque pas besoin de nous pour savoir que c'est des histoires.
Ouais.
Mais sur la pensée, parfois, qui est la morale de ces histoires, on ne peut pas leur dire que c'est des histoires.
Donc, non, mais j'ai rien contre la morale.
Mais j'ai dit qu'à travers les contes, on les forme.
Oui, mais même s'il n'y a pas de contes, on les formerait quand même. Enfin, c'est
oui,
souhaitable.
Mais c'est la
donc, je ne sais pas, moi, j'ai pas de. En fait, ça, c'est une différence. Je ne vais pas rentrer dans des discussions comme ça parce que j'ai rien à en dire. J'en sais rien.
Parce qu'il y a souvent le ne fais pas, c'est ta faute, t'as fait ci, voilà. Il y a ça dans les contes.
Oui, il y a autant la vie aussi, il y a ça. Oui. Mais c'est pas un discours que je peux. Enfin, je sais pas. Je peux dire à un enfant, c'est pas bien ce que tu as fait là, ou je, peut-être pas comme ça. Pas comme ça, mais en tout cas, lui faire sentir que c'est pas aligné par rapport à sa nature. Bien sûr, bon, bien sûr, je peux le faire. Et je vais pas m'en priver si jamais ça doit se passer présente, évidemment. Je vais les structurer, les gamins aussi. C'est libre, si tu veux. Tu ne m'appuies pas sur des idées, sur des concepts, sur des histoires, sur l'enseignement, sur je ne sais pas quoi. C'est ici, maintenant, en fonction de ce qui se passe. Il n'y a rien de prévu à l'avance. Je ne sais jamais comment ça va réagir. Ce que je vois, c'est que ici, maintenant, cet organisme réagit de façon dont il n'avait jamais, parfois, de certaines façons, qu'il n'avait jamais utilisé avant. Parce qu'il n'y a plus les freins. Il n'y a plus l'interdiction de faire ci ou ça dans l'ensemble. Ça se fait. Ça jaillit. C'est constaté. Tu vois, il n'y a pas identification à l'action qui est faite par cet organisme. C'est libre de ça aussi. Et c'est complètement conscient, et c'est complètement impliqué, et c'est, tu vois, c'est complètement là. Sinon, ça ne pourrait pas saisir les gens, ça ne pourrait pas faire voir la chose à voir, s'il n'y avait pas complète implication. Il y a complète implication et pas d'identification. Ça, et ça se fait, sans moi, sans aucune intention, sans aucune volonté, sans aucun désir de faire quoi que ce soit. Et autrefois, j'aurais pu parler des contes et de ce que ça raconte et en quoi c'est bien ou pas bien, mais je sais pas quoi, et aujourd'hui, je pourrais plus. Parce que je sais pas. Puis je m'en fiche. Par contre, si jamais un enfant me demande de lui raconter un conte, puis que je vois un truc que je sens pas très, tu vois, pas dans la rectitude de ce qui est, ben je lui dirais. Tu pourrais pas faire comme si je l'avais pas vu.